l'encourager, le fortifier. Je te prie pour chacun d'entre nous, aide-nous à être des auditeurs attentifs qui savent recevoir. Nourris-nous, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes dans nos vies, que tu nous nourrisses, que tu nous rappelles tes vérités. Amen. Amen.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai vu ces nouvelles. Les nouvelles, c'est une bénédiction pour chacun de nous et pour toute la création. Dans le psaume 138, il y a un monsieur qui parle, il s'appelle David, un grand homme. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit, je te célèbre dans mon cœur. Je chante tes louanges en la présence. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, David reconnaît la bonté et la fidélité de Dieu. Mais ce qui m'a frappé dans ce que David a dit, il dit, car ta renommée. Il parle de la popularité de Dieu. Il dit Dieu, sa popularité s'est accrue. Pour quelle raison? Par l'accomplissement de ses promesses. David nous dit que Dieu tient parole. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, à Châtes, on parle encore de Dieu. Ce qui a fait que dans tous les petits quartiers, dans nos maisons, on parle encore de Dieu, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Donc, si un homme se pointe devant David et lui dit que Dieu a changé, David va traiter ce dernier à deux menteurs. Lui, c'est son expérience. Il a marché avec Dieu. Il n'a pas cherché une expérience de quelqu'un d'autre. Il a son vécu et David tire la conclusion que Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais ça, c'est l'expérience de David. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui va faire sa propre expérience. Et c'est dans 1 Roi, chapitre 8, si on lit le chapitre, très intéressant, le verset 56, c'est le fils de David. Il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Moi, Salomon, j'ai pris le temps de les analyser. J'ai pris le temps de les observer. J'ai pris le temps de discerner. Et je suis arrivé à cette conclusion. Aucune de ces paroles n'est restée sans effet. David dit que Dieu a compris ses. Salomon aussi, après avoir fait des recherches, après avoir cherché la face de Dieu, après avoir analysé et discerné tout ce que Dieu fait, il il arrive aussi à cette conclusion. Personne ne peut se pointer devant Salomon et dire à Salomon que Dieu a changé. Dieu est le même. Et sa parole est le même. Donc, on voit que Dieu n'a pas changé. Et dans des années plus tard, il y a un pasteur bizarre qui va apparaître. Un pasteur qui, quand il prêche, personne ne comprend. Il s'appelle Isaïe. Il a une prédication qui est bizarre. Même jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'il prêche. Qu'est-ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 1? Voilà son message. La Vierge. Une vieille, ça c'est une notion. Une femme qui n'a aucun rapport avec un homme, qui n'a jamais, jamais, jamais connu quelqu'un. Et toi, Isaïe, tu t'arrêtes et tu oses dire que une telle impossibilité. Nous savons que pour qu'il y ait un enfant, il faut un homme, il faut une femme. Toi, tu t'arrêtes, tu oses dire que c'est Dieu qui t'a inspiré et tu dis tu ne vierge. Isaïe est en train d'annoncer le commencement de la marche de la Trinité. Il est en train de nous introduire petit à petit dans le surnaturel de Dieu. Et si j'ai du mal à croire, j'aurai du mal avec tout le reste. Une vierge est enceinte. Ça, c'est la publication de Dieu. Et il va encore plus loin. Il dit non seulement elle va être enceinte, elle va mettre au monde un enfant et l'enfant il a un nom. Tu dis une chose qui est bizarre et tu viens dire encore que cet enfant qui va naître là, c'est elle. Et on va l'appeler Emmanuel. Il a dit, je ne vais jamais me chercher à comprendre. Quand Dieu parle, il n'a pas dit que je cherche. Quand Dieu parle, la première étape qu'il demande à tout homme, c'est de croire. Donc, celui qui veut passer son temps à comprendre comment une vierge tombe enceinte, il va se dire, il faut d'abord croire. Au verset 22, on se rend compte que Isaïe a dit, tout cela arriva. Donc, il n'a pas menti. Mais sûrement que quand il disait ça, les gens se moquaient de lui. Une vierge. Une impossibilité. Comment tu peux oser dire que tel est ça? Ça ne change personne d'ailleurs. Et quand Dieu parle, il faut l'observer. Il ne faut pas discuter avec Dieu quand il parle. La première étape pour la transformation dans une vie, quand on devient chrétien, quand on n'est pas chrétien, quand on vient une première fois dans l'église, il demande de recevoir ça. Il ne demande pas de discuter. Ce que Isaïe a dit là, même jusqu'aujourd'hui, la science avec toute la technologie qu'on peut imaginer ne peut pas démontrer ça. Une vierge tombée à ça. C'est Dieu qui a parlé. Et aujourd'hui, qui on s'élève? Donc cette parole, c'est la parole. Mais regardons l'envers du décor. Dans Luc 1. Marie, qui est la mère de cet enfant, quand elle va être visitée par l'ange, elle va juste après aller voir sa cousine qui s'appelle Elisabeth. verset 40, il est écrit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua sa cousine appelée Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, elle aussi, était stérile. Dieu lui a donné un enfant. Elle était enceinte de 6 mois. Et on dit, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. J'ai mis expressément en bleu à partir du chapitre, à partir du verset 42. C'est quelque chose de bizarre. On dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, à partir du verset 42, il est mis des guillemets. Tu es béni dans tout ce qui est dit du verset 42 au verset 45. C'est la bouche d'Élisabeth qui s'ouvre pour parler. La voix qu'on entend, c'est la voix d'Élisabeth. Mais la personne qui parle, c'est le Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle va dire, ce n'est plus elle qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler à Marie. On entend Élisabeth parler. On sait que le son qui sort de la bouche de la femme, c'est la voix d'Élisabeth. Ce n'est pas Élisabeth qui parle. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à Marie. Et qu'est-ce que Dieu dit à Marie? De façon terre à terre, au verset 42. Il dit à Marie, ton test de grossesse est positif. De façon terre à terre. L'enfant que tu portes, donc tu es enceinte, ton test de grossesse est positif. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer Marie. Elle a parlé avec un ange, mais ce n'est pas qu'elle était en grossesse. Et le Saint-Esprit lui dit de façon terre à terre. Je viens de faire le test. Voilà. J'ai passé du jaune au bleu. Du jaune au rouge. Tu es enceinte. Le Saint-Esprit parle. Mais comment Marie a été enceinte? Comment elle est tombée enceinte? Elle qui n'a pas connu un homme. Le même Saint-Esprit va encore l'éclairer. Et ça, c'est vrai. À Marie. Il y a une sémence qui a été. Et cette sémence est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole permanente et incorruptible. Tu as laissé cette parole pénétrer en toi. Comment la parole a pénétré en Marie? Le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu pénètre en moi, si je ne veux pas croire, ça n'a jamais été. Heureuse celle qui a cru. Marie a cru. Nous aussi, on doit croire. Même si ça sonne bizarre, Dieu nous dit de croire. Marie a cru. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Si je ne veux pas croire, je ne veux pas que la sémence de Dieu pénètre en moi. Dieu ne demande pas de comprendre. Personne ne peut comprendre Dieu. Quand on lit Matthieu 13, verset 15, on comprend Dieu par une seule chose, le cœur. C'est précis, on ne comprend pas Dieu par le cerveau. Le cœur. Et les seuls sur la terre qui peuvent comprendre Dieu, ils s'appellent les chrétiens. Personne d'autre ne peut comprendre Dieu. Celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu ne peut pas comprendre Dieu. Donc la porte d'entrée, c'est de croire. Et c'est ce que Marie va faire. Elle a cru. Elle a cru. Dieu merci, cet enfant il va naître. s'appelle Jésus. Dieu merci, il n'est pas muet. Il parle. Il va ouvrir sa bouche et il va parler. Et dans Matthieu, dans Marc, chapitre 1, cette première parole, il dit, je suis venu et j'ai un message. Ce message s'appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Je suis descendu du ciel avec ce message et avec rien d'autre. Ce message a la capacité de transformer tout ce qui est. Ce message a la capacité de donner un une nouvelle espérance à quiconque écoute. Mais je ne voulais rien faire pour vous. Je ne ferai absolument rien pour qui que ce soit. Je vais vous montrer vous-même les étapes à suivre pour que l'évangile vous transforme. Qu'est-ce que Jésus je dois faire? Il dit, sachez que je suis venu avec si vous refusez, vous n'allez jamais profiter de ce voyage. Mais il y a un processus. Je ne ferai rien, c'est vous-même. Vous devez d'abord faire la première étape parce que je vous ai donné une volonté. Dieu n'a pas décidé d'imposer sa parole à qui que ce soit. Et pourquoi les gens qui sont assis là, ils vont faire voir la pêche? Dieu n'impose pas ta parole, mais il dit qu'il y a un processus. Étape numéro 1, il faut changer sa mentalité. Répentez-vous. Si je ne veux pas changer ma mentalité, si je veux regarder la parole de Dieu en tenant de mes diplômes de philosophe, de quoi que ce soit, je ne vais rien comprendre. Il dit changer. L'étape numéro 1, celui que nous célébrons Noël, étape numéro 2, faites expérimenter comme Marie a fait. Pourquoi? Il faut croire à quoi? À cette bonne nouvelle. Jésus, c'est tout. Lui, c'est tout. Changer sa mentalité et sinon, on ne peut pas avoir accès à cette bonne nouvelle. Mais évidemment, quand on va dans Matthieu 17, le message de Jésus n'est pas ça. Malgré sa simplicité, malgré sa douceur, malgré ce qu'il dit de façon terre à terre, son message. Et quand les gens écoutent Jésus, ils sont contents. Mais de l'autre côté, ils pensent à Moïse. De l'autre côté, ils pensent à la loi. Quand ils écoutent Jésus, ils pensent à Élie. Ils pensent aux prophètes. Et ils vont pousser Dieu à intervenir sur la montagne de la transfiguration. Dieu va parler. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il va répéter une phrase qu'il a dit dans Matthieu 3. Il dit, celui-ci, ce Jésus qui est né de cette vierge-là, ce Jésus est mon fils bien-aimé. Et c'est à lui que j'ai mis toute mon affection. Cette phrase qu'il avait déjà dit dans Matthieu 3. Mais il va venir compléter cette phrase en disant quelque chose de précis. Il dit maintenant, écoutez-le. Depuis qu'il vous parle, depuis qu'il vous enseigne, vous ne voulez pas l'écouter. Mais cette voix s'est fait entendre de quoi? On dit que la voix se fit entendre de la nuit. C'est une voix qui a traversé le ciel et sur la montagne de la Transfiguration, il y avait quatre personnes. Il y avait Jésus, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait Pierre. Mais là, Dieu nous le donne. Ils étaient quatre au-dessus. Et Et la voix a traversé la nuit, donc elle a traversé le ciel pour venir chez lui. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé. Les nuages ont entendu. Le ciel a entendu. La terre a entendu. Toute la création a entendu. Toute la création, y compris nous les hommes, et Jésus va démontrer que toute la création a entendu. Il va menacer la tempête. La tempête a des oreilles. Elle entend, elle se soumet. Il va menacer le vent. Le vent a des oreilles. Le vent entend, le vent se soumet. Il va regarder un arbre, le figuier. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Le figuier entend. Le figuier se soumet. Toute la création répond à la domination de Jésus. Nous, les hommes, c'est tout le monde. Vous avez vu. Je suis en train d'établir mon règne. Toute la création se soumet à moi. Alors, j'ai un message spécifique maintenant pour vous. Et il va dire ce message spécifique dans Jean 14. Il dit, sachez que je suis le chemin. Ne cherchez pas un autre chemin ailleurs. Le chemin pour sortir de la dépression, c'est moi. Le chemin pour sortir des souffrances, c'est moi. Personne d'autre sur la terre. Je lui affirme son autorité. C'est moi la vie et en dehors de moi, il n'y a aucune vie. Si vous cherchez la vérité sur cette terre, c'est moi. Et c'est moi qui connais le mécanisme, le chemin pour arriver à la vie. Quiconque refuse ce que Jésus dit, il ne pourra jamais voir. Nul ne vient au Père que par moi. Tous les leaders religieux sur la terre, les Mahomet, les Bouddha, aucun homme ne s'est arrêté pour parler comme Jésus. Il est le seul à dire qu'il est le chemin. Et il assume. Jésus montre le chemin de la vérité. Parce que nous voulons être affranchis. Quel est le chemin de la vérité? On veut fêter Noël, c'est une bonne chose. Est-ce que j'ai découvert la vérité? Dans Jean 8, il va nous dire la vérité, comme on le dit. C'est la seule façon de découvrir la vérité. Vous demeurez dans ma parole. Tout ce que je dis, ne cherchez pas à discuter. Ne cherchez pas à analyser. Vous devez demeurer dans ce que je dis. Et quand vous allez demeurer dans ce que je dis, dans ce moment-là, la vérité que vous cherchez va. Et c'est cette vérité-là qui fera exactement de vous des hommes libres. Jésus n'a pas honte de nous. Il nous dit la vérité. C'est en lui et dans le qui sort de sa bouche que se trouve la vérité. Le Seigneur nous a fait la grâce cette année, sans aucune vantardise. C'est pas pour mettre des projecteurs sur moi, je ne suis absolument rien. Il veut que tous les projecteurs soient tournés sur Jésus. Nous avons décidé de prendre en considération ce que Jésus dit. Cette année à la maison, pas parce qu'il n'y a pas eu de maladie, pas parce qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais aucun problème, aucun silo n'est entré dans la bouche de nos enfants, dans la bouche. aucun, avec humilité, aucun de nous dans cette salle ne peut me parler mieux de lui. Dieu m'a fait la grâce de le bénéficier. Je connais Dieu. Les médicaments sont importants et je ne dirai jamais à qui que ce soit, je ne jamais parlé. Jamais. Mais à un moment donné, il faut voir si ce que je dis est vrai. Quand tu prends ton enfant qui est malade, 40 degrés, 41, tu le mets dans son lit, tu as confiance pleinement à ce que Jésus dit. Ton cerveau dit tu es malade. Ton cerveau dit tu es fou. À qui est-ce que je regarde? Je sais les traitements qu'il faut donner à l'enfant. Dieu nous met au défi. Ce que Jésus dit ici, il parle à chacun de nous de façon personnelle, pas à quelqu'un d'autre, pas une expérience de quelqu'un qui va transférer ça à quelqu'un d'autre, c'est une expérience personnelle. Quand tu dors, tu sais que l'enfant est malade. Mais parce que tu as prié, le matin, ton cerveau te dit, quand tu vas te réveiller, ton enfant il est mort. Le matin, tu te réveilles, plus de fièvre, l'enfant est en bonne santé. Sur quoi on s'appuie? Si je ne crois pas que ce Jésus est le même hier et aujourd'hui il est encore le même, ça ne sert à rien d'éduquer nos enfants selon ses ordres. Parce qu'ils vont rencontrer un légume. S'il a changé, pourquoi annoncer à nos enfants Jésus? S'il a changé. Je connais l'importance des médicaments. Mais Jésus dit qu'il est au-dessus. C'est une expérience personnelle. Où je crois pleinement à ce que Jésus dit, où je doute, à ce moment-là, je sais de lui. On peut parler en pleine gastro à son ventre, le ventre obéit. J'avais une expérience folle, on peut dire. Est-ce que ça va passer? Tout ce que je veux, tant que je n'ai pas expérimenté, je vais dire que c'est de la théorie. Pourquoi je dis que la vérité peut nous créer des problèmes? Alors qu'elle peut nous libérer. Alors, c'est ce que Paul m'a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 6. Il y a une chose, il y a deux choses qui nous fatiguent. Paul dit, nous renversons les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements qui s'opposent à ce que Dieu dit. Il y a des raisonnements qui s'opposent. Il y a la raison qui vient. Mais qu'est-ce que tu crois? La médecine a progressé. Je sais que la médecine a progressé. Je ne peux pas nier. Si Dieu m'a fait la grâce d'étudier, je sais que la médecine a progressé. Et je ne peux pas me permettre de nier la médecine. Mais celui qui parle de l'obligé. Et c'est une expérience personnelle. Il y a des faux raisonnements qui montent. Il y a des obstacles quand je parle. C'est nous qui devons confronter ces paroles-là aux paroles de Jésus. Et c'est personnel. Personne ne peut dire à son ami, fais ci, fais ça. Tant que je n'ai pas eu la conviction, je ne peux pas me dire. Paul dit, je fais taire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à ce que Christ dit. Chacun prend ses responsabilités. Qui est-ce que je vais faire? Un Dieu qui ne se soucie pas de nous, un Dieu qui est impersonnel, qui n'a même pas de soucis pour les gens, ou un Dieu qui dit. Autre chose qui bloque la vérité, alors que j'ai demeuré dans la parole de Dieu, alors que je me suis enraciné dans la parole de Dieu, Dieu dit attention, tu es un homme, tu peux pécher. Et le péché dans 1 Jean 1, alors que je pense avoir la vérité, alors que je pense demeurer dans la vérité, Dieu dit le péché, à cause du fait que tu ne veux pas passer par la repentance, sache que la vérité que tu penses avoir, elle est partie. La vérité n'est point en toi. Si tu ne veux pas vivre dans la repentance, et si tu ne veux pas vivre dans la repentance et tout le temps reconnaître tes fautes, sache que tu fais Jésus menteur. Et si et quand tu le fais menteur, ta parole n'est pas en toi. Mais si tu marches avec humilité, si tu confesses tes péchés, Jésus dit qu'il est fidèle et juste. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le message de Jésus ne passait pas. Parce que ce que Jésus disait était tellement simple que notre raison bloque tout ce que Jésus dit. Le chef et le consommateur de nous. Dieu dit de garder les yeux fixés. Sinon, on va entendre beaucoup de choses. Et ces choses vont nous faire capter. Ces choses vont nous faire dire que Dieu a changé. Ces choses vont nous faire dire que Dieu n'est plus le même. Et on va dire oui. Et on perd notre vie. C'est pourquoi, dans les deux thèses, dit de l'écouter parce qu'il est constant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Si j'affaiblis Jésus aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire monter mon enfant. Parce que l'enfant de Jésus qui va recevoir dans 10 ans, c'est un menteur qui va recevoir. Donc si je fais monter mon fils, je suis conscient que Jésus n'a pas changé. Donc il va recevoir le même Jésus. Le même Jésus d'hier qui est puissant, le même qui m'a fait le Jésus nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas uniquement en parole. Il y a un moment donné, il faut la démonstration et la puissance de Dieu. Pour que mon cœur au moins se réjouisse de la puissance de Dieu. Sinon, je vais penser que je viens à l'église, je viens au milieu de mes frères, je suis heureux, je sors, je pleure. Ce Dieu-là ne se soucie pas de moi. Ce Dieu-là, il est méchant. Pourquoi célébrer un menteur? Pourquoi tout le monde entier célèbre un menteur? S'il est méchant, pourquoi le célébrer à Noël? Pourquoi? S'il ne se soucie pas des gens, pourquoi le célébrer? Mais Jésus, quand on lit, tous ceux qui l'ont reconnu, il a changé leur vie. Tous ceux qui l'ont reconnu, il a changé leur vie. Si je ne veux pas le connaître tel qu'il est, comment il va me changer? Ce matin, nous allons prier. Nous allons penser à lui. Et nous allons prier. Jésus dit, Jésus dit qu'il n'a pas changé. Jésus dit qu'il est puissant. Il n'a pas changé. Donc on va prier sur Jésus qui n'a pas changé. Et ne pensez pas à ce que vos voisins vont penser. Fixons les yeux de Jésus. Les prières que nous n'avons pas l'habitude de faire, faisons-les. Regardons à Jésus avec humilité. Reconnaissons que depuis longtemps, on l'a peut-être affaibli dans nos pensées. On l'a peut-être affaibli dans notre raisonnement. On l'a peut-être affaibli et on a peut-être dit qu'il a changé. Regardons-le comme il dit. Et avec humilité, disons, rappelons à Jésus. Il nous dit de plaider. Donc, rappelons à Jésus que nous croyons qu'à la croix, tout ce qu'il a dit, que tout est accompli, nous croyons aussi que tout est accompli. Et disons à ce sujet avec humilité que, à compter d'aujourd'hui, nous voulons savoir. Nous voulons vivre, nous voulons expérimenter toute sa puissance dans nos vies. Nous voulons que son règne s'établisse dans la vie de nos enfants. Nous voulons que sa puissance soit une vérité dans nos vies. Nous avons prié. Père, nous croyons que Jésus n'a pas changé. Nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, et aussi pour nos enfants et éternellement. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu as dit dans ta parole s'accomplit comme David l'a vécu, comme Salomon l'a vécu, comme les Juifs l'ont vu. Comme aujourd'hui nous voulons le voir dans nos vies. Seigneur, tu nous fais la grâce. Tu nous fais la grâce d'avoir accès à la vie. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de vivre Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Père, je prie que là où l'ennemi mettait en nous le doute, que là où l'ennemi mettait en nous, Seigneur, l'incrédulité, et là où l'ennemi voulait, coûte, que nous mettions, Seigneur, les paroles de Jésus à côté. Donne-nous la force de pouvoir garder dans nos cœurs tout ce que Jésus a dit. Donne-nous de pouvoir vivre Christ afin de pouvoir, Seigneur, lui révéler à tout ce monde qui tu es. Seigneur, tu n'as pas changé. Et nous savons que tu fais exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, lui, célébrer Jésus avec joie. C'est Noël. Mais tu veux que, Père, tout ce que nous fassions, que toi, tu sois à l'origine, tu donnes la conduite à tenir. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu nous donnes, dans cette période, Seigneur, de la Nativité, que chacun de nous voit exactement Jésus. Seigneur, tu es puissant. Tous ceux qui sont allés à Jésus, tous ceux qui l'ont reconnu, Jésus a changé littéralement leur vie. Jésus a transformé littéralement leur vie. Et nous croyons que tout ce que Jésus a fait, il est encore capable de le faire dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre assemblée. Nous savons que Jésus est le même. Père, merci. Merci pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que nous vivons beaucoup dans des faits établis. Parce qu'à la croix, Jésus a tout pris. Nous avons avec assurance, espérance au retour, pour vivre pleinement.